Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce Café littéraire. Merci d'être venus malgré l'heure du déjeuner, la chaleur, on va pas se plaindre non plus, hein. Mais et le beau temps. Et puis bah voilà, on va vous parler de ces personnages, de ces créatures qui sont des créatures traditionnelles de la fantasy à travers les trolls, les elfes. Peut-être moins traditionnel, mais assez en vogue en ce moment, les berserkiers. On vous expliquera exactement de quoi il en retourne. Et puis, bah voilà, ça va nous amener effectivement à parler des livres de nos auteurs présents autour de la table. Je vois que le masque est sorti, je vais donc me tourner vers Jean-Claude Duniac. Pourquoi Salut. Le troll, Jean-Claude ?
Bah, je cherchais un personnage qui me ressemble. Donc j'ai trouvé un personnage bas du front.
Ça démarre bien.
Ouais. Assez pas spécialement connu pour la finesse et l'élégance de son apparence, et dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était lourd, lent et porteur d'un côté assez inexorable. Et comme je voulais quelqu'un qui, dans une entreprise, soit à la limite tout à fait en bas de la mine, celui qui fait le boulot et celui qui a l'espèce de gros bon sens qui fait avancer le machin, le troll s'est imposé rapidement. Et j'ai découvert une chose, c'est que le troll est devenu mon porte-parole. C'est-à-dire que c'est un livre qui est écrit au jeu, à la première personne, et donc je suis obligé de m'incarner en troll, ou plus exactement, le troll s'est depuis longtemps incarné en moi, et d'ailleurs ça se voit, et il y a un phénomène de débordement qui est assez net, même si c'est que de la pierre, enfin on sent quand même qu'il y a des vraies coulures de rocher, quoi.
C'est pas trop coûteux au niveau du régime alimentaire quand même ?
Ben, ça dépend, parce que le diamant maintenant se trouve, puis j'ai trouvé un moyen d'en faire à peu de frais, donc vous verrez dans le deuxième bouquin, il y a des tas d'astuces pratiques pour quand on est un troll, vivre sa vie, enfin c'est pratiquement, si vous êtes des trolls vous aussi, vous aurez des choses utiles à apprendre.
Eh bien, je ne vais pas, si je vais oser, je vais demander, Aurélie Wellenstein, vous n'avez pas écrit sur les berserkirs parce que vous leur ressembliez, rassurez-nous.
Bah, comment vous pouvez vous en douter? Ouais, une petite jeune fille, non, moi je ressens beaucoup au berserk, effectivement, une créature sauvage, en furie, qui défonce tout sur son passage. Voilà, ceux qui me connaissent me reconnaissent dans ce portrait.
Alors là, il faut peut-être quand même qu'on explique un petit peu, parce que c'est peut-être pas forcément la créature dont on va parler qui est la plus connue.
Ouais, je vais vous parler un peu du berserk. Le berserk, ça vient de la mythologie nordique. Alors, je ne sais pas si vous avez un peu en tête, c'est quoi comme créature. On peut avoir dans l'imagination l'image d'un viking très énervé, voilà, qui va tout casser. Mais bon, alors les questions de l'étymologie, on ne sait pas très bien. Disons qu'il y a deux interprétations. Il y a le berserk, ber qui signifierait nu. Et Zerker, ce serait l'armure. Donc, en gros, ce serait un guerrier qui se bat sans armure, qui va au combat, qui n'a pas peur de prendre les coups, qui peut encaisser les coups en dépit, sans avoir de protection. L'autre interprétation, qui est sans doute plus juste, c'est ça viendrait de Bear, ce serait plutôt l'ours. Ça viendrait plutôt de la figure de l'ours. Et donc ce serait celui qui va au combat avec une fourrure d'ours. Donc voilà, c'était probablement, c'est la mythologie nordique, hein. Des guerriers qui allaient au combat sans armure, seulement vêtus d'une peau d'ours. Ils entraient dans une sorte de transe sacrée qui les rendait insensibles aux coups, au fer, au feu. Ils pouvaient effectivement... Tout dévasté sur leur passage et renverser leurs ennemis. Une autre créature, il n'y a pas que les guerriers ours dans le berserk, il y a aussi une autre créature, c'est... Bon, je ne prononce pas bien les mots nordiques, hein, j'ai pas l'accent. C'est le Ulf Ednar, et lui, c'est étymologiquement celui qui porte la peluche de loup. Donc on va comprendre, c'est un peu le même concept, mais avec cette fois la fourrure de loup. On comprend qu'en fait, les berserks, c'est une sorte de groupe qu'on appelle les guerriers fauves. Donc voilà, c'est pour ça qu'on comprend un peu peut-être mieux le titre de mon roman, Le roi des fauves. C'était donc des guerriers ours, des guerriers loups, il y avait aussi des guerriers sangliers. Et pourquoi, donc quel est le rapport avec tous ces animaux? C'était ce qu'en nordique, on appelle ça le hammer. Alors voilà, je ne prononce pas bien, mais c'est hammer. Et ça, c'est une sorte de corps astral animal qui est en chacun et qui, par la transe, va investir le guerrier. Donc l'esprit du loup, l'esprit du sanglier, l'esprit de l'ours. Et c'est ça qui va l'habiter. Pardon ?
Les Indiens ?
C'est vrai que ça fait très chamanique, mais là c'est complètement nordique. Hein. Les berserks, c'est totalement viking et nordique. Tout à fait. Et donc voilà, pour le rapport avec le roman, c'était donc ça revisite le mythe du berserk. Et donc c'est donc des jeunes gens qui sont condamnés à, ils ingèrent un parasite qui les transforme en animal enragé, donc en animal furieux. Et pour le coup, moi, j'ai un peu... C'est pas seulement des ours, des loups et des sangliers. Il y en a, mais il y a aussi d'autres créatures comme les élans, les aurochs, les tigres à dents de sabre, etc.
Les chevaux.
Et des chevaux aussi, ouais.
On va y revenir, évidemment, au long de ce café littéraire. Et puis, on va avoir un regard un petit peu différent, puisqu'on va sortir du côté purement littéraire avec Fabien Fernandez. On va s'intéresser aux représentations aussi de ces créatures dont nous parlons. À la fois... en termes d'illustration, et puis également, parce que pour certains, c'est aussi très intéressant, dans les jeux de rôle. Comment s'en tient justement avec les jeux de rôle? Comment est-ce qu'on travaille, par exemple, sur les figurines, j'imagine?
Alors, je ne suis pas trop sur les figurines, je suis plus sur l'écriture d'univers, et à la limite, le lien le plus direct, ce serait le jeu que j'ai écrit qui s'appelle Islandigar, où on retrouve des personnages qui ont une puissance avec un esprit totem et qui sont investis un esprit totem animal qui puisse leur pouvoir là-dedans. Et c'est un continent totalement isolé et qui subit des raids réguliers de ceux qui sont nommés les Berserkevar. Donc on voit bien le lien. Là, en l'occurrence, j'ai bien... aussi repris ce que vient de dire Aurélie, c'est-à-dire ceux qui portent la peau animale pour aller à la guerre. Et en fait, c'est des humanoïdes qui font un peu plus de 2 mètres, qui sont couverts de peau de bête et d'acier et qui font des raids. Et après, pour le reste du jeu de rôle, peut-être un peu plus classique, c'est-à-dire le papa du jeu de rôle, qu'on pense à Donjons et Dragons. Là, on a vraiment aussi une classe de personnages qui est barbare, qui a ses trans de combattants, berserk, ce genre de choses. Et après, pour la représentation, on peut élargir.
Voilà, on va y revenir tranquillement.
Ce que je disais, c'est que c'est marrant, c'est que moi aussi, j'ai des berserkers dans mes trolls humoristiques, mais ce sont effectivement d'horribles guerriers vêtus de peau de peau d'ours avec une hache aiguisée, etc. Mais ils ont décidé d'arrêter la violence, donc ils ont des patchs de sang collés sur la gorge pour leur servir un petit peu de truc. Et il y en a un qui est complètement défoncé parce que son patch est trop gros, et donc il récite de la poésie et les autres le font taire à coups de hache. Enfin bon, ça me plaisait bien d'avoir des berserkers devenus hippies à cause du fait qu'ils avaient décidé de renoncer à la violence et de se mettre des patchs de nicotine sous la forme de patchs de sang, en fait.
Vous aurez donc compris, si vous n'avez pas encore lu L'Instinct du Troll, que nous sommes...
C'est pas tout à fait vrai, c'est ça.
Nous sommes dans une fantaisie un peu particulière. Est-ce que tu peux, Jean-Claude, nous remettre dans le contexte, justement, ton personnage de troll? Parce que c'est aussi tout ce qui l'entoure qui est intéressant.
Ce qui est particulier dans cette histoire-là, c'est que je travaille, bon, à titre personnel, dans une grande entreprise. Et donc, je connais... de l'intérieur, les mécanismes des grandes entreprises comme les mécanismes des grandes administrations. Je travaille aussi avec la Commission européenne. Donc, il y a énormément de choses drôles là-dedans, de choses absurdes. Et je me suis dit, si on met ça dans un contexte de fantasy, ça devient vachement intéressant. Si, avant d'aller chercher le Graal, les chevaliers de la table ronde sont obligés de faire des réunions d'avancement pour gérer le budget ou de régler leur GPS, qui est un Graal Positioning System, qui évidemment commence à déconner quand on se rapproche du but, ce qui est le but de tout GPS. À ce moment-là, on se dit, on a un truc qui marche bien. Et on a un mélange entre cette espèce d'absurdité de la vie réelle quand on travaille en entreprise et l'absurdité des concepts de fantasy quand on les creuse un peu. Je me suis dit, mélanger les deux, ça m'a bien plu. Et donc, j'ai un troll qui est le seul capable de gérer des nains parce que c'est le seul qui est capable de courir assez vite pour leur taper dessus, quoi. Et le nain moyen est un nain qui travaille trop parce que s'il ne travaille pas, il est obligé de rentrer chez lui et sa femme l'emmerde, donc il préfère rester à piocher. Enfin bon, et on crée tout un tas de concepts de cette façon-là et à un moment donné, on s'aperçoit que les aventures naissent naturellement de ce rapport entre les deux mondes. Et mon troll, c'est le seul qui garde, je dirais, un minimum de bon sens Et puis en plus, de toute façon, quand il estime que les choses doivent progresser d'une certaine façon, ben, il tape dessus jusqu'à ce que ça prenne la forme qui va. Mais dans une nouvelle qui n'est pas dans le roman, mais qui est dans un recueil de nouvelles que j'ai publié ailleurs, c'est celui qui sauve les licornes. Et il sauve les licornes parce que les licornes ne servent plus à rien, parce que la pureté, à un moment donné, n'a plus aucun intérêt. Donc, comme on a mis les pires nécromants aux ressources humaines, ils ont estimé qu'ils font de la compression de personnel et on retrouve des licornes compressées un petit peu partout. Et lui, pour sauver les licornes, il dit qu'en fait, il a trouvé une façon de les sauver en leur donnant une utilité. Ben, elles servent à transporter les CD vierges. C'est-à-dire qu'elles ont une corne et on glisse les CD vierges sur la corne. Et donc, comme c'est les seuls à être capables de porter des CD vierges de façon normale, puisque c'est des licornes, elles se retrouvent à avoir une fonction et à partir de là, on ne les tue plus.
Tu sais qu'on appelle ça une bite dans le... Les objets qu'on met, qu'on utilise justement pour empiler les CD, justement les.
Oui, pas en présence d'une licorne, s'il te plaît.
Bah, je suis désolé. En radio, en tout cas, c'est comme ça qu'on appelle. Enfin bref.
Aurélie, de la poésie, bonsoir.
je ne suis pour rien. Oui, exactement. Exactement. Aurélie Weinstein, on est alors là dans un univers beaucoup plus sombre que ce que vient de nous raconter Jean-Claude, et c'est peut-être mieux pour tout le monde, avec donc l'épopée, ou en tout cas le destin, la quête de trois jeunes adolescents à qui va arriver cette tragédie de devoir lutter contre cette métamorphose qu'on leur impose. Il y a beaucoup d'éléments autour justement de cette métamorphose, à la fois physique et puis également à la fois psychologique.
En fait, pour moi, la métamorphose animale, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est-à-dire que, ça j'en parle aussi dans mon dernier roman « Les loups chantants », pour moi, l'animalité, c'est aussi quelque chose qu'on a en nous, quelque chose de primitif, mais quelque chose de très positif. C'est la vitalité, c'est cette sauvagerie, mais positive, en fait, celle qui aussi nous fait avancer, nous permet de sauter par-dessus des obstacles. Voilà. Donc, en fait, dans Le Roi des Fauves, bon, c'est mon point de vue. Après, si je me transformais en animal, peut-être que je ne serais pas si heureuse que ça, je ne sais pas, mais... Là, ils sont condamnés à se transformer en animaux, mais pas seulement une métamorphose physique. C'est-à-dire qu'il va y avoir surtout cette déperdition psychologique où ils vont sombrer dans une espèce de rage inextinguible, cette espèce de soif de sang et de carnage qui rejoint donc le berserk dont on a parlé tout à l'heure. Donc, non seulement ils ont les poils qui apparaissent de la fourrure, des ongles pour les ongulés ou des griffes, enfin, vraiment cette chose qui ça avance lentement, hein, c'est pas sur plusieurs jours, donc ils ont aussi le temps de voir leur état changer, se dégrader. Et surtout, ils sentent leur esprit vaciller et ces trois personnages donc, qui sont amis, ils se disent mais comment on va finir quoi, on va s'entre-dévorer, on va s'entre-déchirer, il faut absolument qu'on arrive à lutter contre ça. Donc ils vont chacun en fait investir cette malédiction à leur manière et lutter avec leurs propres armes en fonction de leur personnalité. En fonction de leur personnalité aussi, il y a cet animal qui émerge en eux. Et donc effectivement, c'est une métamorphose physique, mais c'est aussi beaucoup un changement psychologique, une trajectoire. C'est une forme de lycanthropie, ouais, tout à fait. Bah, au départ, j'étais beaucoup partie sur cette idée pour le roman. Après, la métamorphose, elle est définitive, c'est aussi ça. C'est-à-dire que la lycanthropie, bah, on retourne à l'humain quand la lune décroît. Là, eux, pas du tout, hein. Ils vont se métamorphoser, ils vont rester comme ça, et surtout, ils vont devenir fous, furieux.
Et avec trois personnages qui doivent affronter ça, chacun à leur manière et en fonction de leur caractère. Et c'est aussi ce qu'on va découvrir, puisque quand on les rencontre, on a trois amis très unis. On a même presque l'impression d'un ménage à trois, c'est assez, oui, assez particulier au début. Et puis au fur et à mesure, il y a ça aussi, c'est que ça va les séparer.
Ouais, ils veulent lutter pour rester ensemble, ils restent ensemble, ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent pour garder leur amitié, mais forcément, avec les épreuves qu'ils traversent, ben, ça va saigner. Ouais, c'est un peu un thème kafkaïen, effectivement, avec la métamorphose en cafard dans le roman de Kafka. Bah, c'est effectivement des métamorphoses qui sont atroces. Là, pour le coup, pas du tout positive et pas du tout vitale. Oui. C'est vrai. Ouais.
Fabien, alors peut-être un peu plus l'illustration maintenant. On parle de créatures, alors qui, pour le coup, sont des archétypes. Quand on est illustrateur et qu'on doit, pour une couverture par exemple, illustrer un troll, un elfe, un berserkir, est-ce qu'on s'appuie justement sur les archétypes tels qu'on les connaît ? Est-ce qu'on essaye un peu d'en sortir au contraire ? Est-ce qu'il faut que le lecteur, par exemple, qui passe devant la couverture, sache d'emblée à quelle créature il a affaire ?
En fait, je partirais sur la base que l'illustrateur déjà est très différent du peintre. Le peintre, on va dire, fait, je vulgarise un peu le trait, mais il fait ce qu'il veut. Le métier d'illustrateur, c'est répondre à des contraintes. Donc en l'occurrence, oui, on utilise les codes et on essaye de les transformer au mieux. Alors je pense qu'à l'heure actuelle, on évolue, il y a une belle évolution par rapport aux premières illustrations, par exemple, d'elfes ou de trolls, ce genre de choses. Quand on pense par exemple à Peter Jackson quand il a adapté Le Seigneur des Anneaux, il a aussi adapté des images, mais en reprenant des codes, les elfes et leurs oreilles pointues et ainsi de suite. D'un autre côté, on est obligé de respecter ces codes parce que c'est par là qu'on lit l'image. Et c'est le challenge et c'est ça qui est vachement bien. Par exemple, retranscrire un berserker, si on pense, j'ai pas du tout vu la couve, du coup j'ai le livre de dos, j'aurais tendance à mettre des traits animaux ou peut-être passer par ce qui est à l'intérieur des personnages. Et quand on pense à l'âme d'un personnage, on va passer par ses yeux, donc la colère, peut-être d'autres clichés aussi, une étincelle électrique ou quelque chose, un foyer dans au fond des yeux, en tout cas qui retranscrit une émotion, puisque là, je pense que c'est ce qui est primordial si on parle de ton livre.
C'est vrai que là, on est vraiment, quand on est illustrateur, on est au service du livre.
Ah, complètement. On est complètement au service du livre parce que on doit signifier ce qu'il y a dedans sans trop en dire. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut aussi raconter une autre histoire par une simple image. Pour moi, en tout cas, l'illustration, c'est pas simplement faire un dessin, c'est aussi raconter une histoire dans l'image. Et si on arrive à faire le pont entre la couverture et le roman, je pense que c'est tout gagné parce que ça enrichit, l'un l'autre s'enrichissent et c'est tout bon pour le lecteur.
Ça m'est arrivé pour Gilles Francescano, puisque on a eu, enfin, Gilles Francescano est l'illustrateur de tous mes recueils et de quasiment tous mes livres en fait. Et c'est un illustrateur que j'aime beaucoup et qui fonctionne bien avec moi. Mais quand j'ai eu fait l'instinct du troll, donc dont il a fait la couverture, il m'a dit je suis embêté parce que je viens de faire une série de trolls pour Pierre Bottero. Et il me dit, je ne sais pas si je suis capable de me renouveler et d'être complètement différent de ce que j'ai fait pour Bottero. Et je lui dis, tu sais, Bottero et moi, on n'écrit pas du tout de la même façon, donc il y a des chances que tu y arrives. Et déjà, j'avais une chance, c'est que les trolls de Bottero étaient des trolls poilus, un petit peu comme les trolls de la bande dessinée Troll de Troie, enfin ce genre de choses. Et c'était un personnage poilu, jovial. Enfin. Et moi, je suis arrivé avec un troll de pierre, avec un personnage assez sombre. Et je lui ai dit, écoute, inspire-toi de moi. Et donc, il a fait une couverture effectivement assez moche et truc. Et ça marche extrêmement bien. Et surtout, il a fait un truc qui est génial.
Ce sera répété.
Il a fait le dos du truc, où on voit d'ailleurs un petit peu l'arrêt des fesses. J'ai insisté pour qu'on la voit.
Il faut dire qu'elle joue un rôle important dans le roman.
Et donc, il est tellement grand et massif qu'on lui colle des post-it dessus. Quoi. Enfin, et ça, je me suis dit, OK, il a compris ce que je voulais. Et la couverture, je l'aime vraiment beaucoup. Et donc, l'illustrateur a réinventé le troll pour chacun des livres qu'il a fait, et tout en restant dans les archétypes.
Damien Snyers, bonjour. J'espère que je prononce bien votre nom d'abord.
Oui, bonjour. Désolé du retard.
Hein, pas de soucis.
C'est pas de ma faute pour le coup. Là, je tiens à préciser. Oui, ça va. Le nom, c'est bien.
Très bien. On va parler de la stratégie des As, ouais. Et on va parler des elfes. D'abord, ouais. On parlera peut-être un petit mot du troll aussi, parce qu'il mm-hmm. joue un rôle important et intéressant. Mais ouais. Bon, vous êtes aussi là pour parler d'abord des elfes. Est-ce que vous pouvez nous présenter la stratégie des As, nous dire voilà, ce qui se passe quand on ouvre le roman?
Généralement, j'ai tendance à dire qu'en fait, c'est un livre qui parle d'un cambriolage dans le casse, dans un 19e siècle imaginaire. Imaginaire déjà parce que j'ai des elfes et des trolls. Donc voilà, j'en avais pas trop à l'époque. Donc 19e siècle alternatif, où il y a un petit côté steampunk. De quoi ? Ça dépend, si on prend pas bien ses rutis, peut-être qu'il part sur le principe que la magie, ça existait, mais que c'était caché. Ici, c'est plutôt alternatif. J'ai un petit côté steampunk avec, j'ai des machines à vapeur un petit peu, j'ai un peu de magie. Et donc ici, c'est une bande de 4 voleurs qui doivent récupérer un bijou.
Pourquoi l'elfe comme personnage principal ?
En fait, j'utilise l'elfe ici parce que c'est une minorité dans ce monde-là, qui est forcément indiscriminée, qui... Et ça me paraissait intéressant de parler d'un personnage comme ça. Et l'elfe, je voulais prendre un peu le contre-pied du cliché qu'on a habituellement sur l'elfe, donc le cliché Tolkien, avec l'elfe qui est grand, gentil, droit tout le temps. Ici, j'ai voulu en faire un salopard.
Un gentil salopard, quand même.
Gentil, je sais pas, je veux dire, ça reste un assassin, ça reste un arnaqueur, ouais. Ça reste un cambrioleur. Il a un côté sympathique, il a un côté drôle, mais c'est un salopard.
Et un peu agaçant aussi.
Ah ouais ?
Ouais.
Je sais pas. Bon, il m'agaçait pas. Mais...
Ah bon ? Ouais, et parfois on a un petit peu envie de lui dire, bon, ça va, tu arrête de la ramener, quoi.
Ouais, mais c'est son côté grande gueule, quoi. Voilà. On les aime bien, les grandes gueules.
Alors l'idée ensuite, c'est tout simple, c'est que donc ils ont on leur fait une proposition pour un casse. Et évidemment, ça ne va pas se passer du tout comme prévu. Étonnant. Là encore, on a des personnages qui évoluent au fur et à mesure du roman, qui vont vers le danger et vers un destin un peu plus sombre.
Oui. À la base, c'est vraiment des personnages qui sont plus sur des petit coup, c'est la petite arnaque qui vont le rapporter un peu quand même, mais ça va passer. C'est pas des voleurs de haut vol à la base. Et ici, avec ce qu'on leur propose, puisque c'est une commande qu'on leur fait d'aller voler ça, c'est déjà un plus gros coup. Donc forcément, ils se mettent aussi beaucoup plus en danger. Parce que si on fait une petite arnaque dans un café. Bon, peut-être qu'on va finir par se faire casser la gueule, mais si on commence à jouer avec la pègre, si on commence à jouer avec la mafia de ce monde-là, forcément, on risque de finir soit un petit peu explosé, soit les bouffé par les poissons dans le canal. Donc, j'ai envie de les mettre en danger.
Aurélie Wellenstein, vos personnages donc, sont confrontés... à cette métamorphose, et puis vous nous emmenez dans cette cour du roi des fauves. Alors, c'est toujours difficile de parler des livres, d'entrer trop dans les détails, mais on se retrouve quand même dans une situation, lorsqu'on arrive dans cette cour, où on a, comme vous le disiez tout à l'heure, toute cette rage, mais qui est aussi une rage presque orgiaque qui se déchaîne.
Oui, c'est vrai que j'aime bien ce côté un peu... carnaval monstrueux. À un moment, le personnage traverse une cour, justement, un espace clos où il y a toutes ces créatures autour de lui. C'est une dimension que j'aime bien. C'est vraiment l'aspect un peu carnaval, macabre, morbide, un peu sauvage. Effectivement, les créatures se repaissent de viande. Bon, je ne vais pas trop en dire.
Vous avez bien fait de venir juste avant le déjeuner.
Ouais.
Mais c'est vrai que c'est une scène extrêmement frappante parce que d'abord elle est extrêmement visuelle. On imagine qu'il n'y a pas que ce sens-là qui risque d'être servi si on était présent. C'est à la fois il y a une menace qui plane quand même, l'attente.
Oui, bah, toujours. Moi, vraiment, j'écris des romans où il y a beaucoup de conflits. De conflits narratifs, que les personnages soient malmenés, qu'il leur arrive quelque chose à chaque page, vraiment qu'on soit aussi dans un rythme très tonique et effréné, et ça passe par le conflit narratif, ça passe par les obstacles, ça passe par la menace et le danger permanent. Pour revenir au côté visuel du texte, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'y travaille particulièrement. Je déroule en fait les descriptions, c'est-à-dire que je jette tout ce qui me passe par la tête, je fais une description assez complète et après en relisant je vais élaguer pour ne garder que ce qui est le plus frappant, ce qui va le plus frapper l'imagination afin que le lecteur puisse se représenter la scène. Donc c'est pas pour faire des descriptions fleuves, bien au contraire, les descriptions sont assez courte, mais j'espère assez visuelle, frappante. Et je m'efforce aussi d'y mettre de la couleur, d'y mettre des éclairages, un peu comme au cinéma. Ça, j'ai appris, entre guillemets, à faire ça en lisant Stephen King, parce qu'il fait ça de manière incroyable. Lui, il est extrêmement visuel, il est très cinématographique. On voit vraiment les plans qui se déroulent, on voit des plans américains, on voit des travelling dans l'écriture de Stephen King. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse sur le plan du style. Et comme tu le disais, aussi de faire appel aux différents sens, ça met tout de suite du peps dans une description. C'est-à-dire quand vous parlez des sons, du vacarme, quand vous parlez des odeurs, ça va vous immerger vraiment dans l'univers que nous, on met en scène via les mots. Voilà.
Fabien, on parle d'archétype depuis le début et en même temps, on se rend bien compte que les différents auteurs qui sont à la table, ils jouent avec les archétypes, ils ne font pas grand jouer, ils les démontent carrément pour en refaire autre chose. Est-ce que pour un illustrateur, c'est quelque chose qui facilite l'existence ou est-ce que ça la complique un petit peu
Par rapport à une couverture de livre ?
Par exemple. Même des illustrations intérieures, parce qu'il peut y en avoir sur certains recueils.
Alors ça fonctionne différemment. Pour une couverture, on ne lit déjà pas forcément le roman quand on est illustrateur. Déjà pour ne pas trop s'enfermer dans une image. Aussi accessoirement parce qu'on n'a pas forcément le temps. Et donc on travaille soit avec un pitch donné par l'auteur, soit par l'éditeur. Donc déjà, quand c'est l'éditeur qui, ou même l'auteur quelque part, donne un pitch, il synthétise à sa façon. Donc, qui donne déjà une orientation sur l'image. Donc, on sort de certains carcans pour entrer dans d'autres. Et quant aux illustrations intérieures, alors je vois ça plutôt dans le jeu de rôle, mais c'est plutôt pour illustrer, on va dire, un passage plutôt que quelque chose de très descriptif. Donc, du coup, on a quand même une certaine marge de manœuvre. Et alors, autant que des fois, on peut retrouver des héros en couverture qui ont peut-être une teinte de cheveux plus claire que ce qui est dit par l'auteur. Autant quand on est dans des illustres intérieurs, là, on est
plus
proche.
Si l'héros, il faut qu'il soit roux, quoi.
Ouais, quand même, faut pas rigoler avec ça.
Quand Aurélie parle de tout ce qui est éclairage, finalement, composition presque, je pense que ça doit te parler un peu aussi.
Complètement, en fait. Alors, moi, autant quand j'illustre que quand j'écris, je suis très attaché au principe d'ambiance pour vraiment s'immerger complètement. Et donc, on a ça, donc en effet, par les odeurs, par les sens, presque les cinq sens quand on écrit. Dans l'illustration, on a ça par des lumières. Donc, quand on parle de lumière cinématographique, c'est aussi des lumières qui vont être codées, en fait. Pour donner un exemple très simple, si on veut donner une atmosphère très angoissante, on va avoir plutôt une lumière qui vient du bas avec des ombres et des choses assez indistinctes aux alentours. On a évidemment aussi les cadrages. Alors là, on ne va pas parler comme ce jeune auteur Stephen King de cadrage
prometteur garçon.
Ouais. Non, mais je pense qu'il pourrait passer aux Imaginales, un de ces quatre.
Stéphanie.
on va pas être dans des plans à l'américaine, des travelling, des choses comme ça, parce que c'est très codifié pour le cinéma, ça. En revanche, on va travailler sur des perspectives, des plongées, des contre-plongées, et probablement peut-être plus sur la profondeur de l'image. Le cinéma, c'est l'image en mouvement. Je pense que l'image du fond, on s'y attache, mais très brièvement. Que là, on peut creuser avec des détails qu'on va voir en deuxième lecture d'une image ou ce genre de choses.
Alors, je t'écoute et on va sortir un tout petit peu du thème du café littéraire, mais ça va. Quand je t'écoute, je pense à une scène en particulier, un cœur sauvage, qui est la rencontre de Joe avec le tigre.
Ouais.
Où je trouve qu'on retrouve exactement tout ce que tu viens de dire.
Ouais, bah dans le roman, en fait, il y a la rencontre d'un ado et d'un tigre de façon très, très frontale. Et ça se passe en Russie, donc quelque part avec des clichés russes. La neige, les sapins alentour, ce genre de choses. Et puis il y a aussi cette odeur de sang, cette appréhension de la part de l'ado et peut-être du tigre aussi. Et c'est une vraie confrontation, comme des aimants qui s'opposent en fait, mais on va dire qui pourraient se rassembler sans trop en dire. Et j'ai vraiment travaillé sur peut-être là plus sur les odeurs. Et là, c'est plus. J'ai pas Stephen King en tête quand je fais ça. En l'occurrence, je voyage assez régulièrement en Scandinavie. Je suis un peu un amoureux des Vikings, ce genre de choses. Et il se trouve que quand on est au milieu d'une forêt en Norvège, on a des odeurs que. Enfin, c'est bête à dire, mais on a des odeurs qu'on n'a pas ici. Et on peut plus ressentir ces petits détails, ces petites odeurs, ces bruits, ces choses-là. Et c'est, comme je disais tout à l'heure, je travaille plus sur les émotions, les ambiances, et j'essaye de retranscrire ça en tout cas.
Jean-Claude Dignac, on a parlé du troll, mais le troll est marié dans l'instinct du troll. Et
donc avec une troll, hein,
on rencontre Madame Troll.
Une trollesse, oui. J'aime bien appeler une dame troll une trollesse parce que je trouve ça plein de sous-entendus. Et d'ailleurs, elle est vraiment comme ça, quoi.
Oui, elle est. Il y a un certain contraste de caractère entre le couple.
De caractère et de physique aussi. Mais ça, ta maman t'expliquera. Enfin, il y a encore.
Oui. Merci.
Ouais. J'aime bien le plaisir de déstabiliser son modérateur. Croyez-moi, quand on fait autant de table ronde que moi, c'est une chose dont on ne se lasse jamais.
C'est honteux parce que je ne peux pas me venger. Vu que tu ne peux pas être mon modérateur. Mais non, mais plus sérieusement, ce personnage féminin, entre guillemets, un peu inattendu, qu'on voit débarquer, qui nous emmène là aussi dans des situations assez improbables, je pense à, en particulier à un salon de coiffure.
Et je te rassure, dans le tome 2, elle joue un rôle qu'on va qualifier de majeur. Elle est pratiquement le personnage principal.
J'ai hâte. Voilà, comment il est venu ce personnage-là ?
Parce que le troll est pour moi, enfin, je parle à ma référence de troll à moi, le troll est l'équivalent du géant de pierre, les géants de glace ou les géants de pierre qui ont combattu dans les sagas nordiques. Parce que on oublie que Odin a combattu les géants de glace, etc., etc. Mais il y a aussi tout ce qui a été enfanté par la lave, toutes ces créatures qui sont nées du refroidissement de la roche. Et ce sont des créatures qui sont lentes, qui vivent longtemps, qui, je dirais, pour connaître l'âge d'un troll, ben c'est simple, vous le coupez en deux et vous comptez les anneaux géologiques.
C'est simple.
C'est une façon assez simple, à condition que le troll vous laisse faire. Mais ce sont des échelles différentes. Et imaginez un couple qui a vécu pendant des siècles et des millénaires avec des hauts et des bas, si je puis dire. Dans le cas particulier de la trollesse, c'est surtout des hauts. Et de se dire, tiens, comment est-ce qu'ils vont voir leur relation ? Comment est-ce que ça va fonctionner ? Ça m'intéresse. Et le rapport au monde est complètement différent. Ce sont des gens qui s'amusent dans les avalanches. Ce sont des gens qui sont nés littéralement des montagnes et des glaciers. Donc, j'avais envie d'avoir un couple comme ça. Bon. Moi, je suis moi-même marié depuis très très longtemps avec la même personne que je bénis, et je me dis, tiens, c'est vrai, on parle toujours des rencontres, des moments extraordinaires où les regards se croisent et où la première fois on a découvert que l'être en face de vous est l'être qui vous manque pour vous compléter. Mais la même chose 50 ans plus tard, c'est tout aussi passionnant. Et dans le cas particulier des trolls, la même chose dans l'ère glaciaire d'après, ça vaut le coup aussi.
Damien Snyers, dans la stratégie des As, on a un elfe, on l'a dit, mais on a aussi des personnages qui sont, alors pas hybrides, mais plutôt métissés, on va dire, voilà, c'est le mot que je cherchais, puisqu'on a des personnages qui sont mi-elfes, mi-humains. Ils apportent quelque chose de différent par rapport au personnage de l'elfe 100% elfe.
Mais en fait, avec les métis, ce que je voulais faire, c'était faire une catégorie encore bien différente. Dans la mesure où, voilà, dans ce monde-là, il y a des elfes, il y a des trolls, il y a des humains. Mais les elfes se reproduisent entre eux, les humains se reproduisent entre eux, les trolls se reproduisent entre eux. Mais quelqu'un qui est mi-elfe, mi-humain, sera toujours stérile. Donc ça apporte des contraintes supplémentaires. Et autant chacun, finalement, peut se retrouver dans son groupe, dans son appartenance en tant qu'elfe, en tant qu'humain ou en tant que troll, autant pour eux ce sera toujours plus compliqué parce qu'ils auront toujours le cul entre deux chaises. Et donc pour moi c'était un peu une manière de parler des gens de manière...
Ça ajoute à leur marginalité finalement d'une certaine manière.
Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose aussi qui est très actuel puisque dans notre monde à nous, on a plein de gens qui sont dans cette situation-là.
Ils sont vraiment partout.
Entre deux mondes, voilà, c'est ça. Ils sont entre deux mondes, ils ont une nationalité et en même temps ils ont une autre appartenance, mais s'ils sont dans un pays, on va les traiter différemment, même s'ils ont toujours vécu dans ce pays-ci. S'ils vont dans l'autre pays, on va leur dire, en fait, non, t'es pas d'ici. Et parfois, ils se sentiront chez eux nulle part. Et c'est exactement le cas d'Élise, en fait.
Ça donne à la fois le cas de l'elfe et puis le cas de cette métisse, ça donne des aspects où on sent quand même que ce sont des personnages en souffrance.
Ouais. En fait, j'avais choisi l'elfe et ces races-là, c'est pas au hasard. Parce que j'avais envie d'aborder des questions actuelles, les questions de racisme, qui sont super, super actuelles. Hein. Mais le truc, c'est que moi, je suis un mec blanc. Et aller prendre un personnage noir ou n'importe quoi, mais en tant que mec blanc, je ne sais pas comment, de un, moi, je pourrais l'écrire parce que je ne suis pas dans la situation, je n'ai pas vécu la situation. Et de deux, comment ça pourrait être perçu derrière. Je ne sais pas si je pense pas que j'aurais une légitimité pour faire ça. C'est pour ça que, ici, prendre le cas d'un elfe, le cas de l'elfe, il n'existe pas. Donc il a ses problèmes, il est discriminé d'une certaine manière, mais c'est pas la même chose que dans notre monde à nous. Donc moi, c'est vraiment pour ça que j'avais choisi les races. C'était pouvoir parler d'une question très actuelle, d'une manière différente, de un, pour pouvoir en parler différemment, et de deux, pour toucher des personnes qui, d'habitude, ne seraient pas forcément touchées par ça, qui n'iraient pas, d'habitude ce genre de discours.
Et d'ailleurs, le trio d'origine, c'est en prison qu'ils se rencontrent, deux parce qu'ils se sont fait coxer, et le troisième parce que c'est un troll, donc sa place est en prison.
Voilà, c'est ça. On vit dans un monde où les trolls sont considérés comme des grosses bêtes, comme des animaux, en fait.
N'écoute pas ça, Jean-Claude, ça va te faire du mal.
Moi, je les mets au fond de la mine parce qu'on n'a pas envie de les avoir dans le coin, hein, c'est tout.
Pareil. Mais ils sont considérés comme des grosses bêtes.
Et dans mon univers à moi, les elfes, ce sont des trolls qui ont fait leur coming out.
Ouais. Damien.
C'est pas tout à fait la même chose. Il faudra qu'on fasse un mix comme ça un jour, faire un bouquin.
Mais c'est vrai que voilà, on mesure effectivement bien à quel point il n'y a aucun espoir de promotion sociale pour employer
un terme. Dans ce monde-là, un troll peut être abattu par n'importe qui, sans raison. Simplement parce que voilà, c'est un animal, il n'est pas considéré comme quelqu'un, à la limite même de conscient. Alors que quand on le découvre, c'est quelqu'un qui a des réflexions intelligentes, c'est quelqu'un qui... C'est un vrai personnage, j'ai essayé d'en faire un vrai personnage à part entière, et auquel on peut s'attacher et tout ça, et qui est parfois bien plus sage que les autres.
Et qu'on ne réduit pas à l'incarnation de la force qu'il peut être parfois.
Ouais, c'est ça. Forcément, c'est un grand monsieur balèze qui peut défoncer des portes, mais il est beaucoup plus que ça. J'ai essayé d'en faire quelqu'un qui était beaucoup plus que simplement la grosse bête méchante habituelle.
Ah bah voilà, la grosse bête méchante habituelle. Aurélie, ça demande une réaction. C'est finalement le sujet du roi des fauves, c'est de ne pas devenir la grosse bête méchante. Ou au contraire, de le devenir et de l'accepter.
Bah, oui, voilà, c'est vraiment comme je disais. Bah, je veux pas spoiler le roman, mais il est possible de s'en sortir en acceptant son animal intérieur, qui n'est pas forcément la grosse bête méchante, d'évacuer la cruauté, la méchanceté, pour en faire aller vers quelque chose d'instinctif et de naturel, et finalement d'abandonner l'humain méchant et de devenir une bête dans toute sa primitivité et son instinct.
Alors justement, instinct, moi je trouve que dans la lutte intérieure qu'ont les personnages, il y a cette lutte finalement, je caricature peut-être un petit peu, mais entre l'intelligence telle qu'on pourrait la qualifier pour un être humain et l'instinct animal qui reprend, avec des émotions aussi qui sont différentes, un ressenti du monde qui entoure différent. Et il y a cette espèce... Est-ce que aussi il n'y a pas une lutte pour conserver, je pense à Ivar en particulier, la dernière étincelle de raison?
Oui, d'ailleurs, vers le début du roman, avant qu'il ingère le parasite, il y a une scène où quand il ressort en fait d'une geôle, où il profite de cette humanité qu'il a encore, dont il bénéficie encore. Il regarde, je crois, le ciel, il sent les odeurs du village, de la fumée, des cheminées, des hommes. Et il se dit qu'il va perdre tout ça. Lui, Ivar, c'est un personnage, je pense qu'il lutte avant tout pour ses amis plus que lui-même. C'est-à-dire qu'il voudrait encaisser la souffrance à leur place. C'est un personnage qui porte un fardeau. Enfin, vraiment, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est un bon garçon qui veut protéger les autres. Et bon, il va se passer ce qui arrive. Au niveau de cette dernière étincelle, je pense qu'elle passe aussi par le personnage féminin, quoi. C'est ça. Enfin, aussi le garçon, hein, les deux, hein, vraiment le triangle, c'est eux qui voudraient préserver. S'ils pouvaient prendre toute la malédiction sur lui, il l'aurait fait. Mais voilà, je pense qu'après, à travers la métamorphose, il développe aussi autre chose. Et moi, le pulsionnel et l'instinctif, je pense que ça fait... c'est quelque chose d'intéressant.
On est... Alors évidemment, c'est encore toujours difficile d'aller trop loin dans les intrigues et d'en parler. Mais c'est vrai qu'on a l'impression de cette symbiose au début entre les trois, qui finalement se délite au fur et à mesure, sauf que c'est pas forcément une confrontation, c'est pas forcément quelque chose d'aussi net que ça, finalement, la séparation entre trois, le lien perdure d'une certaine manière. Et quand vous parlez d'Ivar et du fait qu'il veuille prendre sur les autres, moi je trouve que c'est presque chacun à sa manière donne cette impression-là.
Après, il va y avoir des lignes de fracture qui arrivent plus tard. C'est vrai qu'ils se protègent les uns les autres pendant un moment et ça va casser sur certains personnages qui illustrent chacun à leur manière la façon dont on pourrait réagir à cette malédiction. Bon, après, voilà, c'est comme ça que je le vis.
Je suis assez d'accord. C'est ce que j'ai ressenti aussi. Fabien, sur les illustrations, le travail qu'on peut faire, peut-être aussi par rapport à la fresque, on pourrait peut-être en dire un mot, puisque ça fait quand même quelques années maintenant que tu es un peu le maître d'œuvre d'un des éléments phares des Imaginales.
Officiellement, je coordonne la fresque, officiellement.
C'est quoi le cahier des charges?
Le cahier des charges, c'est de mettre de la magie, c'est de peindre pendant toute la durée du festival, et au mieux de respecter les thèmes ou pays invités des Imaginales. Donc en fait, d'habitude on est quatre. Cette année c'est un petit peu spécial. On avait songé à faire venir un étudiant de l'école d'art d'Épinal. Et puis comme ça se passe parfois comme dans les organisations, on se prend les pieds dans le tapis des plannings à droite à gauche, on attend des réponses, on relance. Enfin bref, au final ça s'est pas fait cette année.
Un rendez-vous manqué.
Voilà, j'espère que ce sera l'année prochaine parce que ce serait sympa d'avoir un œil neuf, on va dire. Parce que on est tous illustrateurs à la fresque et on travaille tous sur l'imaginaire. Et on a plus ou moins de bouteilles. Je crois que ça doit faire peut-être 5 ans que je fais la fresque. Et dans le cahier des charges, c'est ça. Donc en fait, on échange par mail. Enfin, au fil des années, on a affiné un peu les techniques. Maintenant, on échange par mail, on compose une image. Cette année, on est parti plutôt sur une idée de Kadabrinsky par rapport au thème de évolution-révolution. Et on s'est répondu comme ça, on a composé et composé, décomposé, recomposé, parce qu'il fallait avoir une image bien composée justement au final. Et avec ce croquis, ben, après on arrive sur place et puis on fait ce qu'on peut.
Vogue la galère.
Ouais, c'est un peu ça.
Là encore, au niveau des créatures, alors cette année j'ai vu, il y a une baleine je crois, si j'ai tout bien vu.
Volante.
Certes. C'est important de le préciser. Oui, c'est, oui dites-donc. Pas
rouler en pieuvre cette année dernière. Il
ne faut pas rouler en cabriolet.
Non, chez vous. En plus.
Il y a un personnage alors, sur le côté gauche, il me semble, si j'ai bien regardé, qui a l'air d'être un personnage un peu hybride et qui pourrait peut-être un peu correspondre à notre thématique.
Le félin ?
Oui, je crois. Oui.
Alors, le félin donc, qui est peint par Diane. Il a une tête de jaguar, des cornes, et en fait, la continuité de son corps se continue comme une sorte de serpent géant. L'inspiration principale, c'était, on a un peu triché, des mythes d'Amérique du Sud. Pas trop dans l'Amérique du Nord, mais bon.
Mais on est bien dans les créatures.
Mais on est dans la révolution, évolution, voilà.
Très bien.
Mais si je peux te voler ton rôle de modérateur une seconde, parce que j'écoute toutes ces personnes qui sont intelligentes autour de moi, et je me rends compte qu'en fait, on s'est trompé de sujet sur la table ronde. J'ai l'impression qu'on parle plus d'humanité que de trolls, d'elfes et de. Et ça, j'aime bien en fait. Voilà, c'était juste pour dire ça. Bah, je ne sais pas si les autres veulent.
Bah, je vais faire réagir nos petits camarades à cette question, Jean-Claude. Est-ce qu'on parle d'humanité à travers ça? C'est voilà. Évident dans l'instinct du troll, puisqu'on est aussi dans le contexte de ces questions autour du monde du travail.
À partir du moment où le troll me représente, j'estime que je peux espérer qu'il y a un minimum d'humanité qui transpire, c'est clair. Mais en fait, toute la littérature de l'imaginaire parle de nous. Elle parle de cette partie de nous qui regarde le monde en essayant de comprendre quelle histoire le monde lui raconte. Et moi, j'avoue que quand j'écris mes histoires de troll, je repense à ce que je vis au quotidien dans mon travail. Je me dis, quelle histoire est-ce que ça me raconte ? Et je fais le petit pas de côté pour regarder ça et quelquefois m'amuser, quelquefois m'indigner, parce qu'il y a des fois où je m'indigne. Et je peux vous dire qu'il y a un problème de crise économique qui est traité dans ce bouquin et qui se développe encore dans le livre d'après. Et ça me fait pas rire. Même si j'essaie de le présenter de façon drôlatique. Donc oui, je parle fatalement de l'humanité. Il y a aussi une raison très simple, c'est que je ne connais que ça. Je ne sais pas parler d'autre chose que de l'humain. Après tout, j'ai pas la chance d'être plusieurs choses à la fois. Je ne suis qu'humain, donc il n'y a que de ça que je peux parler. Comme tu dis, la légitimité, c'est à un moment donné parler d'humain. Mais parler d'humain sous toutes ses formes. Je m'estime en tant que d'auteur avoir le droit de parler de l'humain sous sa forme troll, sous sa forme elfe, sous sa forme nain. Et j'en ai le droit, et je le fais. Mais c'est toujours de l'humain.
Il n'y a pas d'auteur, on n'a encore pas d'auteur de science-fiction, de fantastique, qui sont des trolls et des elfes qui viendraient dire...
Ça viendra peut-être,
mais... Si vous voulez, on le sait, mais on essaie de ne pas le dire de manière publique, et en particulier, on ne citera pas de nom.
Ils sont parmi nous.
Ils sont parmi nous.
Damien, sur cette question de l'humanité, qu'on a déjà finalement abordé travers les questions de discrimination, mais c'est vrai qu'il y a même... Pareil, on ne peut pas trop rentrer dans l'intrigue, mais sur les questions d'humanité, on va aussi beaucoup plus loin à travers justement l'objet du casse.
Ouais, bien sûr.
Il y a des enjeux encore différents.
C'est ça, je vais pas trop le dire.
Lisez la stratégie des As,
voilà,
vous comprendrez.
Voilà, lisez-le. Franchement, c'est bien. Voilà. Alors, toutes les réponses à tout, en fait. Si vous avez des problèmes dans votre vie, si vous avez un problème informatique, ça peut résoudre le problème. Ah. C'est pas garanti, mais ça peut.
Ça fait retour de l'être aimé aussi.
Comment ? Ouais, ça, je sais pas ce que t'as dit, mais ouais.
Ça fait retour de l'être aimé.
Ouais, aussi. J'ai un côté, c'est mon côté marabout, en fait. Non, plus sérieusement, le truc, c'est qu'on écrit aussi, enfin, on n'a qu'un lectorat qui est humain aussi. Donc, écrire pour des elfes, ça n'aurait pas trop, ça aurait pas de sens. Tu vois ?
J'ai un lectorat qui est humain, mais aussi un lectorat qui travaille en industrie. Donc, à un moment donné, j'ai les deux, quoi.
Ouais, en même temps, si tu vas par là, je bosse au chemin de fer en Belgique. Voilà.
Aurélie, pour conclure sur cette question, et je pense qu'on sera vraiment là aussi au cœur du roi des fauves, parce que l'humanité, c'est effectivement le sujet qui sous-tend toute l'histoire.
Oui, c'est vrai.
Les monstres étant parfois plus humains que les véritables humains dans le livre.
Voilà, tout à fait, parce que ça commence par un humain, bien humain, qui va créer cette catastrophe pour les trois autres. Et s'il y a bien un monstre dans l'histoire, c'est bien ce jeune humain.
Ça serait une belle conclusion. Réfléchissons-y, faisons attention à la manière dont nous nous comportons. En tout cas, merci beaucoup à nos auteurs d'avoir répondu à toutes les questions. Auteurs et illustrateurs, pardon. Et puis, bah voilà, vous pouvez aller continuer sous la bulle du livre La Discussion, évidemment, et puis découvrir peut-être certains des ouvrages que vous n'auriez pas encore lus. Et franchement, c'est un tort.
Et si ça vous intéresse, juste après, il y a une table ronde qui n'est pas annoncée, qui a lieu juste à côté, la partie espace court, où il y a une société qui s'appelle Via Fabula qui va présenter des histoires qui se changent en fonction de la personne que vous êtes, de l'endroit où vous êtes, du temps qu'il fait. Et ce sont des gens qui ont préparé, qui ont fait un travail informatique assez fascinant. Et ça leur permet donc de donner à lire sur votre tablette ou votre liseuse une application qui va vraiment tenir compte de vous pour que l'histoire que vous lisiez ne soit jamais la même. Et si ça vous intéresse, on va en parler le coup d'après. Je l'annonce parce qu'elle n'est pas tout à fait dans le programme qui a été imprimé juste avant qu'on la fasse.
Merci à tous.